Les ouvrages bourgeois sur Marx citent volontiers, parmi les sources du marxisme, le courant scientiste bourgeois du XIXe siècle, et ceci à côté de la philosophie allemande, de l'économie politique anglaise et du socialisme utopique. La philosophie d'Auguste Comte est le plus beau fleuron philosophique du courant idéologique bourgeois scientiste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et pourtant, l'œuvre d'Auguste Comte est plutôt précoce, puisqu'il est né en 1798 et mort en 1857. Comme Auguste Comte se réclamait d'une philosophie qu'il qualifiait lui-même de positiviste, on appelle souvent le courant idéologique scientiste bourgeois dont je viens de parler du nom de positivisme. Il convient toutefois de prendre le mot positivisme au sens large, car il recouvre en réalité des marchandises très variées. La sociologie d'Auguste Comte est différente de celle de Spencer, par exemple. On classe pourtant Spencer parmi les positivistes. Auguste Comte se présentait comme un adversaire de l'individualisme issu de la Révolution française. On classe pourtant Stuart Mill parmi les positivistes, alors même qu'il se présentait en champion inconditionnel de l'individualisme le plus acharné. À s'en tenir au jugement de Marx lui-même sur le positivisme d'Auguste Comte, il n'y a apparemment rien de commun entre le positivisme et le marxisme, et il est tout à fait abusif de classer le courant scientiste et positiviste dans les sources intellectuelles des fondateurs du marxisme. Dans une lettre à Engels, Marx dit avoir lu le cours de philosophie positive d'Auguste Comte 30 ans après sa publication. Il précise qu'il ne l'a fait, qu'il n'a pas fait de gaieté de cœur, puisqu'il dit ne l'avoir lu qu'en raison du grand bruit, du tapage fait autour d'Auguste Comte, en particulier en France. Il ajoute, je cite, qu'en tant qu'homme de parti, il défend une position absolument hostile et qu'il a d'Auguste Comte, en tant qu'homme de science, une piètre opinion. Voilà qui peut faire douter de nos doctes ouvrages bourgeois sur Marx, qui prétendent faire du courant positiviste au sens large l'une des sources fondamentales du marxisme. Auguste Comte se présente lui-même comme le fondateur d'une science nouvelle qui se veut l'achèvement du savoir scientifique. Cette science, c'est la sociologie. D'une façon plus générale, le succès du positivisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle coïncide avec l'essor des sciences sociales bourgeoises. Marx ne semble nourrir que du mépris pour la sociologie scientiste bourgeoise, antidialectique et conservatrice. Il faut d'ailleurs préciser que ces sciences bourgeoises naissantes ont très souvent inspiré des penseurs, sinon traditionnalistes comme Taine et Renan, sinon réactionnaires comme Charles Maurras, par exemple, qui s'est réclamé d'Auguste Comte. On peut comparer le jugement de Marx sur la science sociale bourgeoise de cette époque à celui qu'il émettait concernant les économistes vulgaires, Bastiat, Jean-Baptiste Say, etc., qu'il opposait aux économistes classiques du passé, comme Adam Smith, Keynes, William Petty, Ricardo, etc., économistes classiques qui avaient introduit un point de vue scientifique en économie. Pour Marx, le propre d'une idéologie vulgaire n'est pas d'être bourgeoise, lui-même se réclame de la philosophie allemande et des économistes classiques anglais. L'idéologie vulgaire, à la différence de la science bourgeoise classique, ne contribue pas à mieux connaître la réalité sociale. Au contraire, elle sert essentiellement à la mystifier, à faire l'apologie de la société existante. À cet égard, il est frappant de montrer la différence de jugement que fait Marx sur Saint-Simon et sur Auguste Comte. Saint-Simon voulait développer lui aussi une physique sociale, et Auguste Comte a d'abord été son disciple avant de rompre avec lui en 1824. Marx émet un jugement favorable sur Saint-Simon, et il n'a que mépris pour la science sociale, la sociologie d'Auguste Comte. Ceci ressemble énormément à la comparaison entre les économistes vulgaires et les économistes classiques. On ne peut cependant pas en conclure que les auteurs bourgeois sur Marx disent rigoureusement n'importe quoi. S'ils ont tout à fait tort de faire du courant positiviste au sens large l'une des sources de Marx, il est indéniable par contre que le positivisme a largement coloré et même pénétré le marxisme lorsque le marxisme s'est massivement diffusé dans le mouvement ouvrier mondial entre 1870 et 1920. Et ce n'est pas un petit problème puisqu'on vient d'expliquer que le positivisme est fondamentalement un courant bourgeois, conservateur et vulgaire. À cette époque en France, il était fréquent d'assimiler ouvertement le socialisme, en se réclamant entre autres de Marx, et la sociologie conçue au sens de Spencer et d'Auguste Comte. Le socialisme était présenté comme le versant pratique et purement réformiste de la sociologie. Un ouvrage autrefois célèbre et très lu, aujourd'hui évidemment complètement oublié, de Ferry, Socialisme et sciences positives, qui date de 1897, n'hésitez pas à ramener la lutte des classes à la loi darwinienne de la lutte pour la vie et la totalité marxiste à l'organisme social tel qu'il était conçu par Auguste Comte et Spencer. La pénétration du positivisme dans le marxisme ne caractérise d'ailleurs pas seulement la foule des petits auteurs mineurs et celle des petits ou grands escrocs du type Eugène Düring. Cela aurait pourtant suffi à pénétrer le marxisme en général, car ce sont les petits épigones et même très souvent les charlatans idéologiques que très souvent une grande pensée arrive à pénétrer les masses. Mais en ce qui concerne la pénétration du positivisme dans le marxisme, il faut bien voir qu'elle a affecté aussi les œuvres les plus solides, les auteurs les plus importants du marxisme de la Deuxième Internationale, y compris Karl Kautsky et Georges Plekhanov. En critiquant le positivisme dans le marxisme, c'est bien entendu ces grands auteurs que nous prendrons principalement en considération. Après l'apparition de la Troisième Internationale, malgré l'ampleur de la rupture et la critique ouverte contre le marxisme de la Deuxième Internationale, critique qui visait parfois directement l'influence du positivisme, il faut constater que les traces de positivisme ne disparaissent pas pour autant. Même chez Lénine, il reste un certain héritage. Si le jeune Lénine comporte déjà une originalité de pensée irréductible, n'oublions pas que Karl Kautsky et Plekhanov furent très longtemps ses maîtres à penser. L'héritage positiviste est encore beaucoup plus manifeste dans certains aspects du diamètre orthodoxe stalinien. Cependant, il ne serait pas honnête de limiter la pénétration du positivisme à la seule période de diffusion du marxisme et aux auteurs même importants de la Seconde Internationale. Il n'est pas sûr que l'un au moins des fondateurs du marxisme n'ait pas été lui-même atteint par le mal. Je veux parler d'Engels. Ses œuvres tardives, Les origines de la famille, de la propriété privée et de l'État, L'anti-During et surtout son ouvrage inachevé, La dialectique de la nature, ne sont pas irréprochables sur ce plan. On y trouve les traces d'un certain évolutionnisme, d'un certain naturalisme mécanique, voire même d'un certain économisme, qui caractérise précisément les effets du positivisme dans le marxisme. Et pourtant, dans l'anti-During, le vieil Engels croyait honnêtement livrer bataille contre ces déviations positivistes dont les œuvres de Eugène Düring étaient déjà un symbole. D'une certaine façon, on peut en dire autant de l'ouvrage de Lénine, Matérialisme et Empirio-Criticisme. Il serait certainement très intéressant de se livrer à une étude critique plus exhaustive des œuvres d'Engels et de Lénine sur ce point. Ce serait un excellent sujet pour un séminaire du Centre l'année prochaine. Nous nous contenterons ici simplement de signaler à cet égard quelques points particuliers à titre d'illustration, points qui ne sont pas forcément fondamentaux. Depuis le début des années 60, on assiste à un retour en force du positivisme dans l'idéologie bourgeoise dominante, même si par ailleurs l'œuvre d'Auguste Comte elle-même est bien oubliée. Entre la Première Guerre mondiale et la fin de la période de reconstruction qui a succédé à la Seconde Guerre, le positivisme avait été pourtant écarté pendant un moment dans l'idéologie bourgeoise au profit d'un idéalisme spiritualiste qui a caractérisé le bergsonisme et aussi le début de l'existentialisme. Ce retour du positivisme aujourd'hui coïncide avec un nouvel essor des sciences sociales bourgeoises. Plus généralement, il coïncide avec la domination technocratique. Du côté du marxisme, on assiste aussi à une nouvelle poussée du positivisme sous des espèces très diverses. Nouvel économisme, scientisme althussérien, tentative de structuralisation du marxisme, etc. Ces deux derniers thèmes seront l'objet d'une séance spéciale ultérieure. Mais cette réalité doit nous motiver pour nous pencher sur la question du positivisme et du marxisme dans la deuxième internationale. Nous examinerons cette question en abordant successivement quatre points. Au début de chacun d'eux, je préciserai rapidement les traits généraux du positivisme bourgeois proprement dit, en particulier celui de Comte. Ces quatre points sont les suivants. Premièrement, marxisme, positivisme et scientisme. Deuxièmement, évolutionnisme, positivisme et marxisme. Troisièmement, mécanisme et naturalisme. Quatrièmement, marxisme et économisme. Alors, première partie, scientisme, positivisme et marxisme. C'est un peu le fil conducteur de toute notre étude. Alors, premièrement, le positivisme est un scientisme. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu'il s'agit là d'une idéologie scientifique. Cela signifie, au contraire, qu'il s'agit d'une mystification de l'esprit scientifique, mystification de caractère tout à fait idéologique. Auguste Comte considérait que la philosophie n'est rien d'autre que l'ensemble des sciences. Son ambition principale était de démontrer qu'il était possible et nécessaire, à partir de l'état actuel de la science, de faire naître et de développer une science nouvelle, la sociologie, c'est-à-dire la science de la société avec un grand S en général. Il entendait donner à cette science nouvelle, dont il était le fondateur, un statut tout à fait particulier, comparable au statut de la théologie au Moyen Âge. La sociologie, c'est l'achèvement des sciences, la science terminale vers laquelle convergent toutes les sciences. C'est aussi et surtout l'explication dernière de l'homme. Auguste Comte dégage à ce propos sa fameuse loi des trois états qui résume l'essentiel de sa pensée. Dans l'histoire de l'humanité, il faut retenir trois âges de l'évolution. Il y a d'abord eu un état théologique du savoir, où le fondement de la relation des faits entre eux était recherché dans Dieu ou dans l'intervention de forces surnaturelles. Il y a eu ensuite un état métaphysique du savoir, et ici, le fondement de la relation des faits entre eux n'était plus recherché dans l'intervention des forces surnaturelles, mais dans des abstractions personnifiées, comme par exemple la nature avec un grand N. Enfin, il y a l'état positif du savoir, où les relations des faits entre eux sont dépouillées de l'intervention divine ou des abstractions personnifiées, et ne sont plus recherchés ailleurs que dans des lois générales. Pour jeter les bases de la philosophie positive et fonder la sociologie, Auguste Comte pratique donc l'inventaire encyclopédique de l'état positif de la science. Des mathématiques à l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie, et enfin la sociologie qui apporte une méthode nouvelle, la méthode historique. Il y a un projet, construire une idéologie qui résulte de l'ensemble de ce que Comte appelle l'état positif de la science, et il y a aussi un phénoménisme. Il ne faut pas chercher la nature intime des choses, il ne faut pas chercher la relation causale. La science doit se borner à rechercher les relations invariables qui existent entre les faits observables. Il existe une sorte de dictature des faits de caractère ultra-conservateur. Les faits, comme le nom même de positivisme le fait apparaître, ne sont jamais envisagés du point de vue de leur négation fatale en tant que réalité éphémère et transitoire. Ce scientisme débouche sur un projet de dépassement de la politique par l'esprit positif. Dans la réalité sociale, on peut dégager des séries croissantes d'éléments qui permettent d'imaginer ce que sera une future société adulte qui n'est pas encore observable, mais déjà démontrable. L'esprit positif débouche sur ce que Comte appelle un art rationnel qui peut permettre de modifier la société présente en s'appuyant sur les lois statiques et les lois dynamiques naturelles de la société en général. Professeur de mathématiques, répétiteur à Polytechnique, Auguste Comte en tirait des conséquences radicales sur le plan de l'organisation politique de la société. Il pensait qu'il fallait instituer un pouvoir théorique séparé du pouvoir politique et que ce pouvoir théorique devait subordonner le pouvoir politique. Bien entendu, la sociologie conservatrice positiviste démontre la nécessité éternelle du pouvoir politique, des chefs, comme le disait Comte. Ce pouvoir théorique doit être réservé à une petite élite de savants. Il doit prendre la place qu'avait la religion au Moyen-Âge. Et Auguste Comte n'hésitait pas à parler de religion positiviste et même d'un sacerdoce de cette religion qui comporterait un pape et dont l'ordre serait construit sur le modèle des jésuites. Il a même poussé le ridicule jusqu'à faire un calendrier positiviste où la vie des hommes ne serait plus scandée par les fêtes religieuses et la commémoration des saints, mais par les jours Descartes, Galilée, etc., et des mois qui correspondraient à telle ou telle science. Le marxisme se présente lui-même comme socialisme scientifique. Il paraît lui aussi vouloir définir une politique sur la base d'une théorie scientifique, et parfois même d'une philosophie scientifique, matérialisme historique et matérialisme dialectique. Il n'a pas toujours su éviter la tentation encyclopédique. Elle est éclatante chez cette caricature que représente Eugène Düring, mais elle est aussi extrêmement sensible chez les plus grands, en particulier chez Kautsky et son fameux ouvrage, sa somme théologique pourrait-on dire, qui s'intitule « La conception matérialiste de l'histoire ». Elle n'est même pas insensible chez Engels, qui a consacré son travail théorique à la fin de sa vie aux interminables travaux ethnologiques de Morgan, à sa dialectique de la nature, ou à répondre sur tous les points à Eugène Düring. Lénine lui-même, qui était pourtant davantage un leader politique qu'un théoricien, ne manquera pas de vouloir absolument intervenir et dire son mot sur la fameuse crise de la physique au début du siècle, en y consacrant matérialisme et empirio-criticisme. On peut même se demander si cette passion encyclopédique n'a pas existé chez Marx lui-même, qui a consacré près de 2 ans à répondre aux élucubrations encyclopédiques assez ridicules d'un dénommé Vogt, et qui n'a pas achevé le Capital, non pas seulement en raison de sa santé ou de l'ampleur de ses tâches, mais aussi parce qu'il passait son temps, aux grandes dames d'Engels, à la fin de sa vie, à compiler une documentation beaucoup trop abondante dans toute une série de langues qu'il s'efforçait d'apprendre, russe, turc, etc. Pourtant, si on s'en rapporte à Marx, les prétentions scientifiques du marxisme sont d'un genre très différent. Il faut se rapporter à cet égard à ce que disait Marx du socialisme utopique par rapport au socialisme scientifique, à ce qu'il a dit de l'économie politique classique par rapport à l'économie vulgaire, à ce que dit le manifeste des conceptions théoriques des communistes, à ce que Marx dit de la dialectique hégélienne. Ce dernier point nous permettra d'ailleurs de comprendre le gouffre qui existe entre marxisme et positivisme. Marx ne reproche pas seulement au socialisme utopique de reposer sur des conceptions qui ne s'appuient pas sur l'état positif de la science. Il explique le caractère utopique du socialisme utopique en mettant l'accent sur autre chose. L'utopie dépend principalement de l'état réel des luttes de classe et du développement de la formation capitaliste au moment où les utopistes écrivent. À cet égard, je vais citer le manifeste communiste de Marx. Ils se rendent compte de l'antagonisme des classes et de l'action des éléments dissolvants dans la société dominante elle-même, mais ils n'aperçoivent, du côté du prolétariat, aucune spontanéité historique, aucun mouvement politique qui lui soit propre. Comme le développement de l'antagonisme des classes marche de pair avec l'industrie, ils n'aperçoivent pas davantage les conditions matérielles de l'émancipation du prolétariat et se mettent en quête d'une science sociale, des lois sociales, dans le but de créer ces conditions. À l'activité sociale, ils substituent leur propriété aux conditions historiques de l'émancipation, des conditions fantaisistes, à l'organisation graduelle et spontanée du prolétariat en classe, une organisation de la société fabriquée de toutes pièces par eux-mêmes. Pour eux, l'avenir du monde se résume à la propagande et la mise en pratique de leur plan de société. Fin de citation. C'est pour cela qu'en voulant défendre les intérêts du prolétariat, ils ne conçoivent que comme la classe souffrante, les utopistes se situaient eux-mêmes au-dessus des antagonismes de classe et faisaient appel à la société tout entière et même le plus souvent à la classe régnante. C'est aussi pour cela qu'ils se refusaient le plus souvent à l'action politique et à l'action révolutionnaire. Leur évangile devait suffire à tout. Leurs positions utopiques sont à l'image du développement actuel de la lutte des classes et du développement économique et social. Elles étaient cependant positives parce que ces faiseurs de système reflétaient les premiers balbutiements de la lutte. Ce sont leurs successeurs qui sont purement nuisibles. Ces faiseurs de système fondaient alors des sectes de caractère purement réactionnaire. Marx n'oppose pas non plus les économistes classiques et les économistes vulgaires sous le seul rapport de la méthodologie scientifique pure. Il les oppose cependant en montrant que les premiers ont contribué à la naissance d'une approche scientifique de la réalité sociale, alors que les seconds n'ont fait que mystifier la réalité pour faire l'apologie de la société bourgeoise. La question du caractère scientifique de l'économie politique bourgeoise est donc encore liée par Marx à celle du développement de la lutte des classes et de la formation économique et sociale. C'est ce développement qui explique à la fois les limites des classiques et leur fécondité scientifique par opposition à la stérilité mystificatrice des économistes vulgaires. L'opposition classique-scientifique et vulgaire-idéologue recouvre l'opposition entre la recherche critique de la bourgeoisie ascendante en lutte contre la féodalité et l'apologie mystificatrice de la société bourgeoise par la bourgeoisie déjà dominante dans un système qui révèle son caractère transitoire, qui doit affronter la critique révolutionnaire du prolétariat et qui n'a plus rien à gagner en développant l'approfondissement critique de la réalité sociale, mais au contraire, qui a tout à y perdre. Dans le manifeste, Marx est parfaitement clair sur la question de la théorie communiste. Je cite, « Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classe existante, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux. » Que dit Marx enfin sur la fameuse question du noyau rationnel de la dialectique hegelienne issue de la philosophie idéaliste allemande? Que retient-il de la dialectique hegelienne? On sait qu'il s'agit d'une question très difficile à laquelle il n'est pas question ici de vouloir répondre de façon complète. Mais on peut retenir quelque chose de certain à partir de la fameuse postface de la deuxième édition allemande du livre 1 du Capital, qui plus que tout autre texte montre le gouffre qui sépare à jamais matérialisme historique de Marx, dialectique et révolutionnaire, et sociologie positiviste, conservatrice, même quand celle-ci tente d'intégrer l'histoire. Je cite, « Sous son aspect rationnel, la dialectique est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires, parce que, dans la conception positive des choses existantes, elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale et de leur destruction nécessaire, parce que saisissant le mouvement même, dont toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposer, parce qu'elle est essentiellement critique et révolutionnaire. » Marx ne situe pas son renversement de la dialectique hegelienne en se reposant, comme l'aurait fait un positiviste, sur l'état positif des sciences, Ce qu'il retient de la philosophie idéaliste allemande contredit même directement, s'oppose radicalement au phénoménisme positiviste, à la sociologie positiviste. Celle-ci est à jamais incapable de prendre en compte le changement historique réel. Quand elle parle de développement, il s'agit d'un pseudo-développement qui ne connaît jamais aucun bouleversement. La sociologie positiviste reste toujours enfermée dans une idéologie du consensus, comme le disait Auguste Comte lui-même, une idéologie de l'harmonie qui nie ou prétend réconcilier les contradictions réelles et qui ne peut conduire qu'à faire l'apologie des sociétés existantes. Lorsque le positivisme fait semblant d'envisager le conflit, c'est toujours pour retomber sur l'équilibre qui demeure l'aspect dominant. Ainsi, la lutte pour la vie de Darwin a pour fonction de déboucher chez les positivistes sur un équilibre démographique, c'est-à-dire que la lutte pour la vie devient un argument du malthusianisme. Dans la meilleure tradition théorique du mouvement ouvrier, défendant le marxisme contre ses adversaires ou ses révisions, on a vu se manifester la pénétration du positivisme avec la fameuse théorie de la fusion de la science et du prolétariat. La science marxiste ne serait pas le moment théorique de la lutte de classe du prolétariat, à la fois critique et révolutionnaire, et ceci est une certaine étape du devenir de la formation sociale capitaliste. C'est particulièrement net chez Kautsky, dans son manuscrit sur les sources du marxisme, et surtout dans Conception matérialiste de l'histoire. Kautsky montre qu'il y a d'un côté une conception scientifique du monde, et il précise, je cite, « en tant que telle, elle n'est nullement liée au prolétariat, elle est donc souveraine et détachée de la pratique, et elle a deux missions, premièrement, bouleverser la science, ce qui veut dire que tous les Düring ne sont pas morts, le sous-titre de l'anti-Düring, c'était « Monsieur Eugène Düring bouleverse la science », c'est sa mission théorique. Elle a une deuxième mission, pratique, elle est, comme le dit Kautsky, la ligne directrice du prolétariat. Il y a fusion du marxisme et du prolétariat, mais cette fusion préserve l'indépendance absolue de la théorie et de la pratique. Elle provient du fait que le prolétariat et lui seul a besoin de la vérité. Autrement dit, il n'y a fusion que parce que le prolétariat est le public du marxisme. On débouche donc sur une vision purement scientifique du monde. La phrase est de Kautsky. Vision purement scientifique du monde que Marx rejette dans la citation du manifeste que j'ai lu tout à l'heure et qui peut et même doit un jour sombrer dans l'encyclopédisme non critique qu'Engels pourtant dénonçait chez Düring et aussi sur le caractère directif de cette science, caractère directif qui prétend s'exercer sur l'action même du prolétariat, chose que pourtant Marx laissait délibérément à ce qu'il appelait les fondateurs de sectes. Certes, il s'agit ici de la vision finale de Kautsky et non de sa position lorsqu'il défendait le marxisme contre sa révision, c'est-à-dire contre Bernstein. À cette époque, Kautsky précisait quand même que le marxisme en tant que conception purement scientifique du monde n'aurait pas pu exister sans l'action du prolétariat pour lever l'obstacle bourgeois, obstacle au développement scientifique. Mais cette idée colore toutes les facettes, même les plus opposés du marxisme de la Deuxième Internationale, y compris chez les néo-kantiens, chez Bernstein et chez les austro-marxistes. Dans sa révision, Bernstein voulait éliminer la dialectique qu'il appelait l'élément perfide et non scientifique, qui introduit un jugement politique, un jugement de valeur idéaliste dans la science objective. Bernstein disait « Non, la lutte des classes ne se renforce pas. Non, il n'y a pas paupérisation. Non, le capitalisme ne va pas à son écroulement, etc. » Toutes ces théories ne sont qu'une projection pseudo-scientifique introduite par la dialectique hegelienne dans la science positive de l'économie et de la société. Il faut distinguer science pure d'un côté et idéal moral, devoir-être, éthique socialiste de l'autre. En lui répliquant, Kautsky et Plekhanov restaient au fond exactement dans la même problématique. Il y a une nécessité et il y a un idéal moral, éthique et militant. Les deux sont nécessaires au socialisme, mais finalement, ils ne se doivent rien. La science constate les faits, et il y a une opposition entre jugement de fait et jugement de valeur. On retrouve exactement cette position dans la préface du Capital financier de l'austro-marxiste Hilferding. Et la différence, en définitive, entre positivisme et néo-kantisme à l'intérieur du marxisme de la Deuxième Internationale est subalterne. Je vais lire le texte de Hilferding, parce qu'il me paraît particulièrement clair. On a dit, écrit Hilferding, que la politique est un enseignement de règles, déterminé en dernière analyse par des jugements de valeur. Mais comme de tels jugements ne sont pas objets de la science, il s'ensuit que le travail politique déborde le cadre de l'examen scientifique. Engager ici des discussions d'ordre méthodologique sur les rapports de la science normative et de la science des lois, de la finalité et de la causalité, est bien entendu hors de propos. Il nous suffira de dire ici que l'étude de la politique ne peut avoir pour le marxisme d'autre but que la révélation des rapports de causalité. Montrer la façon dont se détermine la volonté de classe est, selon la conception marxiste, la tâche politique scientifique, c'est-à-dire de la politique qui décrit les rapports de causalité. Tout comme sa théorie, la politique du marxiste ne comporte aucun jugement de valeur. Il est donc faux, quoique ce soit là une opinion très répandue, de confondre marxisme et socialisme, car considéré uniquement en tant que système scientifique et abstraction faite par conséquent de ses effets historiques, le marxisme n'est qu'une théorie des lois du mouvement de la société. Mais la compréhension de la justesse du marxisme, qui inclut la compréhension de la nécessité du socialisme, n'est absolument pas le produit de jugement de valeur, pas plus qu'une incitation à une conduite déterminée. Car reconnaître une nécessité est une chose, et se mettre au service de cette nécessité en est une autre. Cette théorie de la fusion de la théorie et de la pratique de la théorie du prolétariat, de ces deux indépendants, est l'un des fruits des théories du fondateur de l'Association générale des travailleurs allemands, Lassalle, ceci avant la fusion réalisée à Gotha avec les Eisenachiens marxistes. Elle a persisté sous diverses formes, comme nous l'avons vu, chez Kautsky comme chez les révisionnistes et comme chez les austro-marxistes, et elle persiste encore chez Lénine, et ce n'est pas l'un des plus minces problèmes pour nous, révolutionnaires pour l'autogestion socialiste. Dans Que faire ? Lénine a repris, en quelque sorte, la théorie du premier Kautsky. Et à cet égard, il est nécessaire de faire une citation. La conscience socialiste, dit Lénine, serait le résultat nécessaire, direct, de la lutte de classe prolétarienne. Cela est entièrement faux. Comme doctrine, le socialisme a évidemment ses racines dans les rapports économiques actuels au même degré que la lutte de classe du prolétariat, autant que cette dernière, il procède de la lutte contre la pauvreté et la misère des masses engendrées par le capitalisme. Mais le socialisme et la lutte de classe surgissent et ne s'engendrent pas l'un l'autre. Ils surgissent de prémices différentes. La conscience socialiste aujourd'hui ne peut surgir que sur la base d'une profonde connaissance scientifique. En effet, la science économique contemporaine est autant une condition de la production socialiste que, par exemple, la technique moderne, et malgré tout son désir, le prolétariat ne peut créer ni l'une ni l'autre. Toutes deux surgissent du développement social contemporain. Or, le porteur de la science n'est pas le prolétariat, mais les intellectuels bourgeois. C'est en effet dans le cerveau de certains individus de cette catégorie qu'est né le socialisme contemporain, et c'est par eux qu'il a été communiqué aux prolétaires intellectuellement les plus développés, qu'ils introduisent ensuite dans la lutte de classe du prolétariat, là où les conditions le permettent. Ainsi donc, la conscience socialiste est un élément importé du dehors, dans la lutte de classe du prolétariat, et non quelque chose qui surgit spontanément. Aussi le vieux programme de Heinfeld disait-il très justement que la tâche de la social-démocratie est d'introduire dans le prolétariat, littéralement de remplir le prolétariat, la conscience de sa situation et la conscience de sa mission. Point ne serait besoin de le faire si cette conscience émanait naturellement de la lutte des classes. Il est vrai qu'il faut repousser, nous le pensons, le spontanéisme intégral qui, comme le scientisme, mais à raison inverse, écarte lui aussi le problème de l'unité dialectique de la science et de la pratique. Il est certain qu'il faut également repousser la théorie stalinienne des deux sciences qui prétend subordonner la théorie à la direction du parti ouvrier. Mais il faut remarquer que la théorie de Lénine est exactement comparable à celle du Kautsky anti-révisionniste et qu'elle ne nous paraît pas éclairer de façon satisfaisante le problème des liens dialectiques entre théorie et prolétariat que nous avons illustré tout à l'heure. La théorie n'apparaît pas comme le moment théorique de la lutte de classe du prolétariat. L'unité entre la théorie et la pratique est finalement problématisée. À notre avis, on ne peut pas reprendre aujourd'hui telles quelles les théories de Köffer, qu'il est bien possible d'ailleurs que Lénine ait sérieusement amendé en pratique, au moins en 1917. On ne peut pas reprendre telles quelles les théories de Köffer, aussi bien dans leur interprétation stalinienne que trotskiste, et nous, socialistes pour l'autogestion, nous avons une lourde tâche, redéfinir la question du parti, en cherchant, si possible, nos sources chez ceux qui l'ont abordé, comme par exemple la théorie de l'intellectuel collectif chez Gramsci. Mais il faut bien comprendre que si ce problème se présente à nos yeux, il recouvre exactement la question que nous avons abordée au départ. C'est un des aspects de la question, c'est-à-dire la question de l'unité-distinction entre théorie et pratique, qui nous semble insuffisamment approfondie, en particulier justement à cause de la pénétration réelle du positivisme dans le marxisme. Deuxième partie, évolutionnisme, historicisme et marxisme. Alors d'abord, il faut poser la question de quoi est faite la sociologie d'Auguste Comte. Les phénomènes sociaux, pour Auguste Comte, forment un tout uni et cohérent, ce qu'il appelle un consensus. Il y a réaction mutuelle entre les parties. Mais il n'y a pas qu'une dimension statique, il y a aussi une dimension dynamique. L'histoire. L'histoire, c'est-à-dire pour Auguste Comte, les lois de la filiation continue des variations successives des faits sociaux. Ceci débouche sur une idéologie très conservatrice, sur l'apologie de la société existante. L'accent est mis sur le caractère systématique et cohérent du tout social, et ceci exclut les contradictions. Les classes sociales ont toujours existé, elles sont nécessaires. Il faut une organisation sociale qui sache aménager leur concours. Il en va de même pour l'État, les chefs, etc. L'inégalité est inscrite dans la nature. Passons sur Auguste Comte, mais réfléchissons sérieusement d'abord sur cette conception de l'histoire comme un progrès continu qui est exclu en réalité la matière même du changement que Marx lui conserve de la dialectique hegelienne, critique et révolutionnaire, avec sa fameuse catégorie de négation de la négation, reprise dans le chapitre du Capital sur la tendance historique du capitalisme. C'est parce que Marx envisage un changement réel qu'il n'hésite pas à envisager aussi une société sans classe, sans État, etc., et ce n'est pas, comme chacun sait, une mince question. Lénine l'a affirmé avec une très remarquable clairvoyance dans ce que sont les amis du peuple. La conception scientifique marxiste repose sur la connaissance scientifique radicalement critique d'une seule société déterminée, la société capitaliste, la société bourgeoise, dont Marx montre le caractère éphémère et transitoire. Il fait la critique révolutionnaire de la société bourgeoise. Marx ne part pas d'un objet indéterminé, mais d'un objet matériel, défini et réel. La société bourgeoise à son niveau matériel. Ce n'est pas un point de départ concret, car il ne s'agit pas d'un processus particulier, comme par exemple le développement de la société anglaise. Celle-ci intervient dans le travail de Marx, mais son point de départ, c'est une abstraction, la société capitaliste, mais une abstraction déterminée, la société bourgeoise capitaliste. Marx fait l'analyse critique, donc, d'un développement historique tout à fait spécifique, le capitalisme. Et pour ce faire, il oppose Il l'oppose, il le différencie avec les autres développements sociaux historiques, esclavagistes, féodaux, asiatiques, etc. Il les met en relation, mais uniquement pour montrer ce qu'il y a de spécifique dans le capitalisme. Prenons des exemples pour faire comprendre. Marx critique Ricardo à propos de la rente en disant qu'il voulait appliquer le concept bourgeois de rente à toutes les époques. Et il critiquait cette conception en disant « c'est présenter les catégories bourgeoises comme des catégories éternelles ». Marx et Lénine mettent au contraire l'accent sur le caractère spécifique de la rente foncière dans le capitalisme. Allons beaucoup plus loin. Marx reproche à Ricardo de faire une théorie générale de la valeur. Le point de départ de Marx est, lui, très différent. Il part de l'analyse de la marchandise, mais de la marchandise conçue comme la richesse spécifiquement bourgeoise. C'est à partir de là qu'il définit les concepts de valeur d'usage, valeur marchande, plus-value, travail concret, travail abstrait, force de travail, etc. Ces concepts ne sont pas valables comme tels pour toutes les sociétés. Ce sont ceux qui permettent d'analyser la genèse, le développement et la fin d'une société déterminée, la société capitaliste bourgeoise. Le travail abstrait séparé du travail concret n'est pas une découverte scientifique valable dans toutes les époques. C'est la réalité de la société bourgeoise marchande par opposition à la société féodale, etc. Le travail abstrait est une réalité bourgeoise. Donc Marx ne fait pas du tout une théorie générale de la valeur et du travail, mais une théorie de la valeur et du travail dans la société spécifiquement bourgeoise, qui, comme toutes les sociétés, est transitoire et éphémère, et donc appelée à disparaître, et avec elle, le travail salarié, la marchandise, etc. Tout ceci peut être résumé par cette fameuse citation de l'introduction de 1857 à la contribution à la critique de l'économie politique de Marx, « L'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe, et non pas l'inverse. » Certes, en tant qu'organisation historique de la production la plus développée, ces catégories offrent une clé pour comprendre les stades antérieurs et pour envisager l'avenir socialiste. Mais Marx fait tout le contraire de ce qu'on lui prête parfois, sinon toujours, c'est-à-dire appliquer au capitalisme des lois générales scientifique du développement naturel et historique. À partir de là, la connaissance concrète, c'est-à-dire à partir de la connaissance concrète d'un développement déterminé, il déduit simplement un certain nombre de principes qui sont, comme le dit la préface de 1859 à la Contribution, autant de fils conducteurs et non pas du tout l'inverse pour l'analyse de tel ou tel phénomène, de tel ou tel développement historique spécifique. C'est cette méthode qui permet d'envisager l'histoire avec un vrai développement et non un pseudo-développement sans changement réel. C'est ce pseudo-développement sans changement réel qui est caractéristique de l'histoire et de la sociologie bourgeoise positiviste. Pour l'idéologie bourgeoise, l'histoire n'est finalement que l'étude des stades préliminaires de la société bourgeoise, le résultat d'un développement linéaire et évolutif sans rupture radicale. Les sciences de la société et de l'histoire, et ses lois naturelles immuables, ne sont finalement que l'hypostase de rapports sociaux déterminés et transitoires, ceux de la société bourgeoise, et ce sont ces lois qui éclairent le pseudo-développement passé. Il y a des changements formels, mais il n'y a jamais de contenu neuf. Il y aura toujours des inégalités, des classes, des états, et ceci conçu sur le mode bourgeois. Le positivisme fait de la méthode historique une règle. Chez Comte, comme chez Spencer, le simple inférieur doit expliquer le complexe supérieur par une série de filiations continues. Le futur est déjà dans les tendances actuelles ou passées. Il n'y a jamais de changement réel. Cet historicisme positiviste, cet évolutionnisme, a profondément marqué le marxisme de la Seconde Internationale. Il est aveuglant chez Kautsky et Plekhanov. Le rêve théorique de Plekhanov et de Kautsky, on pourrait même dire le songe du marxisme de la Deuxième Internationale, c'est de faire une sorte d'abrégé de l'histoire universelle matérialiste qui nous conduirait de l'histoire naturelle, de l'évolution, à l'histoire humaine jusqu'au socialisme, le stade inférieur expliquant le stade supérieur. Dans cette conception, ce qui est premier dans l'ordre temporel, dans l'ordre chronologique, devrait devenir le fondement d'une construction. Le capital ne serait plus que l'application particulière d'une conception générale de l'histoire. La science ne serait donc que l'application d'une philosophie scientiste de l'histoire, nourrie d'un certain darwinisme, critiqué, mais à côté. Il y aurait donc une sorte de science de l'histoire, mais dont les lois seraient elles-mêmes supra-historiques.